9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Harry Roselmack.
Bonjour Philippe.
Faut-il vous présenter? Vous êtes le présentateur de 7 à 8, magazine d'info du dimanche de TF1. Depuis 2006, vous aviez pris la succession de Thomas Hugues et Laurence Ferrari. Votre rentrée, c'est après-demain dimanche. 7 à 8, comme son nom ne l'indique pas, c'est à 17h jusqu'à 19h. Vous présentez l'émission depuis 15 ans. Cette saison, le magazine fête ses 20 ans. Quoi de neuf pour ce 20e anniversaire?
Alors, il y a des âges de la vie auxquels on se dit qu'il faut rajeunir un petit peu, qu'il faut mettre un petit coup de frais. Et donc, cette année, nouvel habillage. Alors, nouveau générique que vous reconnaîtrez évidemment, la base reste là, mais on ripolline tout ça sur la forme.
On entend l'ancien.
Exactement. Donc, ce sera une déclinaison de ce que vous entendez là. Et puis, sur le fond, parce que c'est quand même le plus important, on fait de l'information, l'arrivée d'Audrey Crespo-Mara dans le portrait de la semaine, qui est l'un de nos rendez-vous très installés, très iconiques de l'émission.
Alors, j'ai eu la chance de voir cette interview. C'est avec Jean-Marie Bigard. L'émission de dimanche, voilà pourquoi je ne l'ai pas vue, est encore en montage. Il y aura quoi au sommaire?
Alors, comme d'habitude, au sommaire, on va avoir des sujets très proches des gens. On va parler dans 7 à 8 live, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on commence à 17h parce qu'on a une déclinaison de 7 à 8 depuis quelques années qui s'appelle 7 à 8 Life. Et dans Life, on a la success story de deux Français qui ont lancé une chaîne de restaurants italiens qui cartonne partout en Europe. Et puis dans 7 à 8, on a, alors comme d'habitude, nos sujets faits divers très impactants avec ce mystère des chevaux mutilés depuis l'été, avec des chevaux partout en France qu'on retrouve éborgnés, mutilés, avec beaucoup de rumeurs sur Internet, mais assez peu de faits concrets, donc nous on va essayer d'éclairer tout ça. Et puis un grand sujet, comme on sait les faire, grand reportage sur la Biélorussie, dernière dictature d'Europe dont le peuple se soulève depuis quelques semaines, depuis la mi-août, et on est allé sur place comprendre ce que c'est que de vivre sous une dictature en Europe à 3 heures d'avion de Paris.
Alors vous l'avez dit, Harry Roselmack, l'interview portrait est désormais assurée par Audrey Crespo-Mara, c'est très attendu dans 7 à 8. Elle respecte le code, je l'ai vu, mis en place par Thierry de Mézières, on se posait des questions, elle n'est pas présente à l'image.
Non.
On l'entend mais on ne la voit pas. Le premier invité, c'est Jean-Marie Bigard, pourquoi lui?
Parce que Jean-Marie Bigard est en ce moment dans l'ADN du portrait. C'est une personnalité connu des Français, c'est le seul humoriste à avoir rempli le Stade de France, et c'est quelqu'un qui connaît actuellement un virage dans sa vie, puisque Jean-Marie Bigard, apparemment, de façon sérieuse, va faire de la politique. Il sera en tête de la manifestation des Gilets jaunes le samedi, suivant la diffusion du portrait, et il a des ambitions au plus haut niveau.
Voilà, double actualité, il annonce sa candidature à la présidentielle, il sera en tête du cortège de la manifestation des Gilets jaunes, ça revient samedi, pas demain, mais samedi dans 8 jours, extrait à deux voix.
Qui méprise qui aujourd'hui en France?
Nos gouvernants, c'est une équipe de remplaçants, et c'est normal parce que Emmanuel Macron, il a réussi un coup fantastique, il a brisé tout le monde, la gauche, la droite. Et d'ailleurs, on s'est dit, il ne pourra pas gouverner, il a que 24%, tu vois, pour gouverner. Puis en fait, si, parce que tu trouves toujours des blaireaux pour avoir un petit siège bien au chaud. Donc il a trouvé des gouvernants, mais qui sont des seconds couteaux. Et donc, ils ne font que des conneries.
Là, c'est du Bigard dans le texte, tout est à l'avenant, il tutoie Audrey Crespo-Mara. Et vous entendrez, Bigard raconte également ce qu'ils se sont dit avec Emmanuel Macron quand ils se sont appelés, parce qu'ils ne se sont pas appelés qu'une seule fois. J'en reviens plutôt aux Gilets jaunes, il y aura donc une manifestation samedi en 8. Est-ce que c'est dans l'ADN de 7 à 8 de faire un reportage dès le lendemain dimanche, ou est-ce que vous faites des sujets au long cours? Est-ce que dimanche, dans 9 jours, on va voir la manif de dans 8 jours?
Ce sont des choix, on est capable de le faire, on le fait parfois, on le fait évidemment, et on en a eu l'une des illustrations les plus fortes que moi j'ai pu vivre à 7 à 8, c'était les attentats de novembre 2015, qui se sont produits le vendredi, et le dimanche on est à l'antenne avec...
Oui, mais là c'est exceptionnel, là c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel, mais on est capable effectivement d'être présent à l'antenne, y compris avec des éditions spéciales, quelques heures après l'événement. Néanmoins, sur la manifestation de samedi, le choix n'a pas encore été fait. Il n'est pas certain qu'on ait un reportage dimanche.
Et il y a eu énormément de polémiques pendant plus d'un an entre les Gilets jaunes et la police, notamment avec les tirs de LBD. Il y a des gens qui ont perdu un œil. Le 3 juin dernier, Harry Roselmack, vous avez participé à une manifestation interdite, manif contre les violences policières. Pour quelle raison?
Parce que au-delà d'être un observateur de la société, je suis aussi un citoyen, et c'est vrai que la question des violences policières alors que je suis bien placé pour en parler, mon père était policier, il était CRS, est une question qui nécessite qu'on se mobilise. Et moi, je suis allé à cette manifestation quelque part pour défendre la police, parce que moi, j'aime la police. J'aime la police, mais je veux que la police soit comme mon père était policier, avec une vraie éthique, avec un vrai sens des responsabilités qui est la sienne. C'est le garant de l'ordre républicain, la police. Et la police ne peut pas, moins que d'autres, moins que des citoyens lambda, avoir des débordements et faire des choses qui sont des choses répréhensibles.
Comment ça s'est passé d'un mot ? Comment ça s'est passé dans la manif ? Vous nous dites « j'aime la police » avec des gens qui, autour de vous, en grande majorité, disent « fuck la police ».
J'ai hésité ce jour-là à aller voir les policiers d'ailleurs qui étaient stationnés là, parce qu'évidemment, alors, la manifestation était certes interdite, en même temps elle avait été annoncée, on savait qu'il y aurait du monde, et il y avait beaucoup de policiers qui étaient là, et elle n'a pas été dispersée cette manifestation. Il y a eu un moment des incidents,
non, mais je veux dire,
voilà, et ensuite... Donc,
comment vous
y êtes
perçu avec les gens qui étaient autour de vous ?
Ben écoutez, je peux vous dire qu'il y avait... beaucoup de gens qui étaient comme moi finalement, parce que les gens qui sont là ne sont pas des gens qui sont pour la disparition de la police. Il n'y a pas d'anarchisme, il n'y a pas d'anarchistes dans ces manifestations. Il y a juste des gens qui protestent contre des pratiques qui sont inadmissibles, d'autant plus de la part de la police. Et donc j'étais en phase avec ces gens-là.
Harry Roselmack, engagé comme je vous avais jamais entendu l'aide, vous restez avec nous, Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On est avec Harry Roselmack qui fête ses 15 ans à la tête de 7 à 8. Ça reprend dimanche, l'émission elle-même à 20 ans. 7 à 8, il y a 7 à 8 et 7 à 8 live. On parlait des manifestations envers, plutôt contre, les violences policières. Dans une interview aux Inrecuptibles qui date de juin, vous dites ce que ne comprennent pas les ministres de l'Intérieur et la plupart des syndicats de police et les hiérarques de la gendarmerie, c'est que défendre des mauvais éléments au sein de leur corps, couvrir des erreurs, ce n'est pas défendre les corps en question, c'est les affaiblir. Et pourquoi je cite cette interview de vous ? Parce qu'il y a un télescopage avec l'actualité. Aujourd'hui est sorti un livre qui fait beaucoup parler. Un journaliste s'appelle Valentin Gendreau, s'est infiltré pendant 2 ans dans la police, incognito, notamment au sein d'un commissariat du 19e arrondissement, dans lequel il a couvert des bavures policière. Et il explique que quand bien même ça le choquait, ça allait contre son éthique, il ne pouvait pas faire autrement. Celui qui ne couvre pas est un traître. Il est mis à l'écart du groupe. On est au cœur du sujet de ce que vous dénoncez.
Oui, comme je l'ai écrit et comme je le réaffirme, la force d'une institution, c'est de savoir se remettre en cause. Que ce soit un corps d'État, que ce soit une émission installée depuis très longtemps, depuis 20 ans par ouais. exemple, si on ne sait pas se remettre en cause, si on ne sait pas voir ce qu'on doit améliorer, si on ne sait pas parfois pointer nous-mêmes du doigt des choses qu'on a mal faites, ben ça finit jamais très bien.
Sur le fond, la déontologie, théoriquement, interdit aux journalistes de cacher leur identité, de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour faire une enquête. Quelle est votre position à ce sujet ? Vous l'avez déjà fait pour 7 à 8 ou jamais, jamais, jamais ?
Non, on a déjà tourné en caméra cachée, ça nous est arrivé, mais on le fait rarement. Mais on n'a jamais travaillé comme ça en infiltration. Je ne juge pas par définition, mais je pense, pour avoir, moi, travaillé, non pas en infiltration, mais en immersion, que tout ça, c'est une question de confiance qu'on installe avec les gens. Si les institutions ou les gens qu'on va rencontrer, s'ils pensent qu'on va retranscrire honnêtement ce qu'ils vivent, et y compris des choses qui ne sont pas forcément en leur faveur, mais qu'on sera équilibré, qu'on sera honnête dans notre transcription... Je peux vous dire qu'ils ouvrent les portes. En immersion, j'étais en caméra ouverte, ma tête, elle est connue partout. Je suis allé voir des salafistes à Marseille, ils m'ont tout montré. Je suis allé en prison, j'ai pu voir la réalité de la prison. Pourquoi ? Parce que les gens faisaient confiance aux journalistes que je suis et ils ouvraient tout. Donc, on n'est pas obligé de s'infiltrer pour faire de bonnes enquêtes. C'est là où je voulais en venir.
C'est un sujet qui me passionne parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en même temps, je ne suis absolument pas d'accord. Je vais donner un exemple dans le livre de Valentin Gendreau. Il voit une bavure. Après, il couvre la bavure. Mais d'abord, il y a une bavure. Il tape sur un gamin qui vient d'arrêter. Il se prend des coups, des claques dans la gueule. Pardon, il n'y a pas d'autre mot. S'ils avaient su qu'il était journaliste, il n'y aurait peut-être jamais eu les claques.
C'est possible qu'il n'aurait pas vu les claques. Néanmoins, je pense que avec une relation de confiance suffisante, un de ces personnages qui, avec lesquels on peut passer en immersion, en faisant un vrai travail de journaliste, plusieurs jours, plusieurs semaines, aurait pu lui raconter un épisode tel que ouais. celui-là. Et il aurait pu le mettre dans son livre. Il ne l'aurait pas vu de ses yeux, mais il aurait eu la parole de quelqu'un de concerné, d'un policier, qui lui aurait dit cette vérité. Moi, je pense que le journaliste, il est là pour recueillir des vérités et qu'il peut le faire en gardant sa qualité de journaliste et en l'assumant.
D'un mot, comment marchent les audiences de 7 à 8 ?
Ah bah les audiences marchent bien, on a fait une très belle saison dernière. L'épisode du Covid nous a, à un moment... Alors ça a été un truc très paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment où on a reconnu le plus la qualité de traitement de 7 à 8 et le fait de, ce fait d'aller vers les gens et de rencontrer les gens, on a eu un petit ras-le-bol, mais de la thématique ouais. du coronavirus qui nous
et
a
aussi...
un petit peu...
Et aussi, vous êtes passé en quotidienne, et ça a duré que trois semaines,
ce dont je parle.
Parce que vous avez fait moins d'audience que Demain nous appartient, le feuilleton
c'est
que vous remplaciez.
C'est exactement ce dont je parle, ouais.
Mais l'hebdomadaire, l'hebdo a toujours marché aussi bien. Grosse notoriété pour cette
avis. Et puis cette quotidienne nous a permis de montrer notre qualité de traitement et le fait qu'on aille vers les gens, qu'on rencontre les gens. Et je crois qu'on va en parler de ça, justement.
Non, parce qu'il nous a amené un petit cadeau, il faut
oui,
le dire.
Oui.
La notoriété relative, document interne, comme on dit, tombé du camion. C'est les équipes d'Harry Roselma qui nous l'ont fourni. C'est juillet dernier en Corse, un reportage de votre journaliste Emmanuel Retz, il croise une dame d'un certain âge qui croit bien connaître l'émission, ou plutôt, qui connaît l'émission sans la connaître, tout en la connaissant. On écoute le dialogue.
Et 7 à 8, ça vous dit quelque chose ?
Alors 7 à 8, c'est quel jour exactement ?
Eh ben c'est le dimanche.
Le dimanche, et c'est de ?
Ben 7 à 8, c'est de 5 à 7 en fait, mais ça s'appelle 7 à 8.
Ça s'appelle 7 à 8. Non, moi je regarde l'émission avec Rose Malek.
Ah, Rose Malek. Bon.
Oui, c'est nous, le dimanche, c'est lui qu'on regarde
bon.
Avec
bon. Ma soeur. Ça ne fera pas une ouverture de
parce
sujet.
Que les informations courtes, ça attrape la crise de nerfs toutes les fois.
Voilà, on ça, les adore. On les adore.
Ils
les
nous choses adorent. À leur place, Harry
et
Rose
ça
Malek.
Ça appelle à l'humilité.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Harry Roselmack. Je rappelle, 7 à 8, ça reprend dimanche sur TF1.